Alors aujourd'hui, nous recevons Martin Untersinger qui va nous parler de son dernier ouvrage qui s'intitule « Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille ». Bonjour Martin.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Paul Amar.
Bonjour.
Et Hervé Schauer.
Bonjour.
Alors Martin, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, moi je suis journaliste au Monde depuis une dizaine d'années. Et depuis à peu près ce temps-là, je couvre les questions liées aux nouvelles technologies et en particulier les questions liées à la cybersécurité. Et comme je travaille dans un quotidien généraliste, c'est surtout les questions géopolitiques ou stratégiques autour de la cybersécurité. Même si j'ai pu faire des choses un peu plus techniques, c'est surtout comment les soubresauts du Monde se traduisent dans le champ de la cybersécurité.
Et qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité ?
Quand j'ai commencé à être journaliste, j'ai senti, déjà j'avais un intérêt un peu personnel pour le numérique, et puis je me suis rendu compte que dans les rédactions dans lesquelles j'étais un peu le seul à comprendre à peu près de quoi il en retournait. Donc ça s'est fait un peu naturellement, et puis peu à peu, avec l'émergence aussi des questions de cybersécurité à l'intérieur de l'espace numérique, l'émergence de ces questions-là, le fait qu'il y ait de plus en plus d'attaques, que ce soit de plus en plus conflictuel, qu'il y ait de plus en plus d'acteurs, etc., c'est devenu un sujet de plus en plus important et qui, moi, m'intéressait parce que, en plus, ça croise des questions techniques, juridiques, humaines, géopolitiques. Donc, c'est assez intéressant pour moi.
Il y a un événement particulier qui a suscité fortement ton intérêt ou...
Non, après, pas spécifiquement. Après, un des premiers souvenirs d'actualité que j'ai, quand j'ai commencé, quand j'étais vraiment jeune journaliste, c'était la révélation de Stuxnet, où vraiment, c'est un peu quelqu'un, je crois que c'est un ancien directeur de la NSA qui avait dit que c'était un petit peu comme si un porte-avions de 2024 se matérialisait au large de la Normandie en juin 40. C'est vraiment le côté waouh, en fait on peut faire des trucs et que personne pensait possible avec juste un programme informatique. Qui est derrière, pourquoi, comment, qui, pendant combien de temps, enfin, ça a déclenché des questions finalement qu'on ne se posait pas auparavant ou pas assez. Ou que dans certaines sphères un peu spécialisées. En plus, je me souviens, il y avait aussi toute la chasse un peu. C'était un peu le début de la CTI, donc il y avait Symantec, il y avait aussi des chercheurs allemands qui se tiraient la bourre pour trouver comment le malware se propageait, quelles failles il exploitait, etc. Il y avait un peu tout ça qui était nouveau, ça je me souviens, ça m'avait fait forte impression. Et l'autre chose, c'était un peu, donc on était en 2012, quelque chose comme ça, je me souviens d'un article dans Wired sur la NSA et sur le fait qu'elle construisait un centre de données gigantesque dans l'Utah. Et en fait, on était donc avant Snowden, avant 2013. Et en fait, tout était là, enfin, il n'y avait pas le nom des programmes de surveillance de la NSA, il n'y avait pas le détail, mais en fait, le fait qu'ils construisaient un data center aussi grand, ça ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose, qu'ils avaient énormément de données à stocker, et que donc ces données, elles devaient bien provenir de quelque part. Ça aussi, je me souviens m'être dit, mais ça, c'est complètement dingue. Voilà, c'est les deux souvenirs un peu que j'ai des deux événements qui m'ont marqué. Mais je pense que Hervé aura l'impression que ces événements sont extrêmement récents, compte tenu de...
moi, je fais partie de ceux qui criaient au crime avant et qui ont été bien contents qu'il y ait des événements un peu plus planétaires qui sensibilisent les gens.
Tout à fait.
Mais dans ton livre, tu repars d'événements très très anciens, puisque tu pars du Cuckoo's Egg, ouais. Le nid de coucou en français.
Me suis dit tout de suite, en fait l'idée du bouquin c'était vraiment...
Il y a plus ancien. Hein.
Alors, de problèmes de sécurité informatique, il y a plus ancien, mais j'ai pas trouvé de traces, ou en tout cas suffisamment fiables, d'opérations étatiques destinées vraiment à visée stratégique, c'est-à-dire un État contre un autre État.
Il y a les États-Unis contre la Russie. Lorsque les Américains ont vu que les Russes, pour faire fonctionner leur gazoduc, utilisaient un logiciel...
c'est une fausse info, en fait. Je t'enverrai, si tu veux, un article qui détaille. En fait, c'est, ça, C'est la fameuse explosion de pipeline causée par une mise à jour, par une porte dérobée dans le logiciel utilisé par les pompes soviétiques. Ça n'est jamais existé, en fait.
Tu veux dire que l'explosion, elle n'est pas due à ça ?
Non, pas du tout.
Ok, alors, bah, c'est vrai que...
C'était la première opération de psy-ops, puisque les gens l'ont cru, et donc ils se sont...
En fait, non, mais c'est même pas ça, c'est un enchaînement de... Un type en Russie dit un truc, c'est légèrement déformé par la traduction, il y a quelqu'un qui renchérit aux États-Unis, mais en fait qui comprend pas exactement la question, et donc ça prend un peu des proportions un peu folles, et en fait...
Vérifie quand même, parce que c'est... Il y a la déclassification des archives américaines, donc ça résoudra le cas.
Oui, alors je suis pas sûr que ce soit encore assez ancien, parce que... en tout cas, moi ça fait partie des trucs... sur lesquels j'ai vraiment travaillé et pour en arriver au fait que en fait la première opération sûre et certaine c'est donc le ce qui est raconté dans en fait ce qui est déjà extrêmement bien connu en fait qui est raconté dans The Cuckoo's Egg de Clifford Stoll où donc qui raconte c'est franchement alors je pense que vous l'avez tous lu ici et vraiment je pense que beaucoup des auditeurs aussi mais c'est vraiment un bouquin absolument fascinant, hyper intéressant et encore assez actuel parce que c'est là que sont posées les bases de l'enquête, enfin de la réponse à incident et de l'enquête sur les incidents de cybersécurité. Il se rend compte qu'il comprend rien à ce que fait le pirate, donc il met en place une manière de garder les logs qui n'existait pas, donc il fait un système un peu sophistiqué pour que tout ce que fasse le pirate soit imprimé sur du papier. Donc tous les matins, il se pointe pour récupérer les détails de l'activité des pirates, etc. Donc de lire ça en ayant un peu connaissance de comment ça se passe aujourd'hui, la réponse à incident et tout ça, c'est hyper intéressant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un type de l'université de Berkeley en Californie qu'on a un peu plus ou moins placardisé dans le service informatique de la fac et qui on lui dit écoute là il y a un problème de facturation de l'utilisation du temps de l'ordinateur central, là il manque 75 centimes. En fait il cherche et puis il se rend compte en fait il y a un utilisateur sur le système qui se connecte toutes les nuits et qui est pas du tout censé être là et qui utilise tantôt une faille, tantôt les comptes d'un type qui est plus à l'université dont le compte est resté activé, enfin ce genre de choses. Et donc, le bouquin raconte comment, peu à peu, à force d'enquêter, c'est aussi fascinant parce qu'il essaye de sensibiliser son université, le FBI, etc., à les gars, il y a un type dans notre système informatique, c'est grave. Et en fait, beaucoup de gens ne le prennent pas du tout au sérieux en disant oui, mais c'est des ordinateurs, on s'en fiche, peu importe, quoi. Et donc, au final, il arrive à, avec l'aide de la NSA notamment, à avoir le fin mot de l'histoire, et notamment grâce à la justice allemande, puisque. En fait, ce sont des pirates allemands qui, instrumentalisés par le KGB, ont eu pour mission de farfouiller un peu dans tous les réseaux ouverts et un peu sensibles aux États-Unis pour récupérer de l'argent. Donc, c'est un peu la première opération de cyber-espionnage.
Ouais, de niveau étatique connu.
Oui, en fait, il y en a possiblement avant, mais...
Il y avait tellement de piratage sur les réseaux X25... c'est grande époque du Minitel, hein, les années 80, que savoir qui était derrière, etc., c'est vrai que ce serait des
situations. Moi, je suis persuadé que c'est pas la première. Vraiment, je serais extraordinairement surpris. Mais en tout cas, c'est la première sur laquelle on a des traces un peu factuelles.
Et quels sont les autres thèmes que tu abordes dans le livre ou les autres thématiques et comment tu les as choisis ?
Alors moi, le gros objectif du bouquin, c'était vraiment pas de m'adresser à un public averti, des gens qui connaissent un peu le sujet, etc. Même si j'espérais que quand même il leur soit utile ou du moins agréable à la lecture. Mon but, c'était vraiment le grand public et donc d'expliquer au grand public qui... lit, entend parler d'attaques informatiques, de pirates d'État, les Russes, les Chinois, les Américains, etc. En plus, dans un contexte où il y a les Jeux Olympiques s'approchaient, on en parlait beaucoup, d'expliquer, entre guillemets, comment on en était arrivé là. Qu'est-ce qui se passait dans le cyberespace et quelle était un peu l'histoire de ce champ de confrontation entre les États. Ça fait très chiant comme ça, mais le sous-titre du bouquin, c'est comment le cyberespace est devenu un champ de bataille, donc comment les États ont peu à peu... investi cet espace pour des visées stratégiques. Donc j'ai fait en gros en trois parties, hein, qui sont les trois parties du livre. L'espionnage, donc vraiment capter de l'information Et donc c'est pour ça que je commence par l'affaire qui est racontée dans le Kekuzeg. Et j'avance jusqu'à aux opérations d'espionnage étatique les plus évoluées qui aujourd'hui sont omniprésentes et contre lesquelles, notamment en France, les services de l'État luttent en fait trois quarts du temps, hein, l'autre quart étant des rançongiciels. Et donc ça, c'est la première partie. Et une deuxième partie qui est un peu plus resserrée, parce que forcément, il y a moins d'exemples et c'est moins fréquent, c'est le sabotage, c'est-à-dire comment on peut vraiment perturber à des fins souvent de guerre, hein, ce qui explique pourquoi c'est moins utilisé, les systèmes informatiques. Donc il y a des tas d'exemples, il y en a même eu en France. Et puis la troisième partie, c'est comment peu à peu on a évolué sur l'utilisation du cyberespace à des fins de manipulation, donc des campagnes de désinformation, des campagnes de manipulation de l'information, tout ce qui est réseau de trolls, etc., qui sont illustrés ces dernières années. Donc on referme ce bouquin. Normalement, c'est pas trop pénible à lire, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai raconté pas mal d'histoires qui illustrent un peu quelles sont les différentes menaces et quels sont les différents acteurs. Et surtout, ce dont je voulais sortir, c'était faire comprendre aux gens que aujourd'hui, les gens qui font des attaques informatiques, alors il y a encore des adolescents boutonneux dans la cave de leurs parents, mais que, en tout cas, quand on parle des attaques les plus évoluées, celles qui vraiment sont dans le champ géopolitique, on n'est plus du tout là-dedans, on est sur des soldats, des officiers de services de renseignement qui obéissent à des ordres, qui obéissent à des stratégies, qui ont une hiérarchie. Voilà. Que ce truc-là s'inscrit dans la marche du monde et que ce n'est pas un truc nébuleux comme ça qui sort de nulle part avec des gens, avec des hackers à capuche, quoi.
Donc pour tous les auditeurs qui travaillent dans la CTI ou la cyber, vous avez le cadeau de Noël idéal à offrir à votre famille. Comme ça, elle comprendra un peu mieux à quoi vous servez.
Il y a même des gens qui travaillent dans ce domaine qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré, j'ai appris des choses ». Mais bon, ceux qui ont trouvé
m'en ont pas parlé. Moi, j'ai bien aimé ton livre, et surtout par rapport à la qualité des sources que tu as pu interviewer. Enfin, en gros, à un moment, tu dis, bah, en gros, oui, la DGSE m'a confirmé que telle opération, et j'étais là, mais ça n'est jamais sorti nulle part ailleurs, en fait. Enfin, j'ai pas appris de choses sur la partie technique et sur tous les incidents notables et Stuxnet et OG connaissaient. Par contre, j'ai été stupéfait par la qualité des sources que tu avais et le niveau d'information qu'ils étaient prêts à te donner. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Est-ce que tu utilises de la drogue, de la coercion ?
Non. Alors déjà, pour être très clair, jamais la DGSE ne m'a rien confirmé. Hein. En fait, c'est juste, entre guillemets, une question de patience et de... Comment dire En fait, comme ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine-là, je sais à peu près qui sont les sources fiables et qui aiment bien parler dans le vent et évoquer des choses qu'ils ne connaissent pas. Après, je le dis, je crois que c'est la première chose que j'ai mis en exergue, c'est que ceux qui savent, en fait, ne parlent pas, ou très peu. Et ceux qui parlent, généralement, ce sont ceux qui ne connaissent rien. Donc, c'était clairement la grosse difficulté du livre, c'était de convaincre les personnes qui connaissaient ces sujets de me parler. Là, ça se voit pas dans le livre parce qu'ils sont pas cités, pas tous, pas toutes, mais il y a énormément de gens qui m'ont parlé, mais qui n'apparaissent même pas en citation, dont les discussions sont venues enrichir le bouquin, mais qui n'apparaissent pas. Et évidemment, c'était une condition absolue pour avoir un échange avec eux. Donc c'est un truc de patience, c'est aussi un truc de confiance. Il faut croire que j'ai pas écrit trop de bêtises ces 10 dernières années, parce que si ça avait été le cas, sans doute que les gens m'auraient pas fait confiance. Mais c'est clair que ce bouquin, c'est l'exemple même du fait qu'un journaliste, il a absolument rien sans ses sources, quoi. Et que les mettre en confiance et les identifier, ça fait clairement partie du travail. Après, il y a aussi beaucoup, et j'ai tenu à ce qu'elles soient vraiment présente de manière exhaustive à la fin du bouquin. Il y a aussi énormément de sources, on va dire, documentaires, soit de documents qui étaient, on va dire, publiquement disponibles, soit de choses que j'ai obtenues moi, mais il y a aussi beaucoup de sources des documents, quoi, des choses qui ne sont pas de l'ordre de la source humaine, comme on dit.
Et pour les sources étrangères, enfin, je pense en particulier à tous les gens que tu as interviewés sur le sujet ukrainien, là, c'est plus compliqué, parce que j'imagine que chaque pays a ses propres journaux, ses propres journalistes, ses propres réseaux. Donc, qui sont les passerelles, en fait, entre on va dire la francophonie et l'Ukraine ?
Alors moi, déjà, je suis allé en Ukraine plusieurs jours en 2019, une semaine. Et donc j'avais, et d'ailleurs je la mentionne vraiment dans la première page du livre, j'avais une fixeuse absolument formidable, donc une fixeuse ou un fixeur pour le journaliste qui est en reportage dans un pays dont il ne parle pas la langue, c'est absolument nécessaire, c'est le chauffeur, traducteur, arrangeur d'interview, partenaire de réflexion, etc. J'ai travaillé avec Nathalie, qui est vraiment une fille géniale et donc qui m'a ouvert pas mal de portes. Mais par ailleurs, étant journaliste au Monde, en fait, c'est assez facile, étant un journal quand même relativement connu à l'étranger, de dire bah voilà, j'ai besoin d'une interview avec telle ou telle personne. Mais par exemple, ce reportage à Kiev m'a énormément servi pour suivre la guerre, puisque par exemple, une des personnes que j'ai interviewées, qui était à l'époque dans le privé, était au moment de l'invasion russe le chef adjoint de l'ANSSI locale. Donc j'avais son numéro, le canal était déjà ouvert, donc c'est beaucoup plus facile que de partir de zéro, quoi. Donc on en revient encore à ça, c'est d'avoir de bonnes sources, c'est aller sur le terrain, qu'il soit numérique ou physique d'ailleurs, et anticiper, discuter avec les gens en amont.
Et 2019, c'était pour quoi exactement ?
C'était déjà pour ce sujet-là, c'était comment l'Ukraine était déjà pilonnée par les cyberattaques russes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on se concentre sur l'invasion militaire très classique, elle commence en février 2022, hein, y a un avant et un après. Mais en revanche, quand on dézoome et notamment quand on incorpore ce qui se passe dans le cyberespace ukrainien, la guerre en Ukraine, elle commence en 2014, elle commence pas en 2022. Et moi, j'ai trouvé que l'invasion russe, en fait, était une forme de... dans une totale continuité avec ce qui s'était passé auparavant. Et de toute façon, on l'a pas assez mesuré, je pense, en France, mais la guerre en Ukraine, il y avait une guerre physique en Ukraine, par ailleurs, dans le Donbass, depuis 2014, avec des blindés, avec des tirs d'artillerie, avec des villages rasés, avec une vraie guerre qui fait des vrais morts. Tout s'imbrique en fait. Et c'était hyper intéressant de faire ce reportage, c'était de voir que, par exemple, aujourd'hui, ils essayent de perturber à coups de missiles l'approvisionnement électrique. Ils ont essayé et réussi à perturber l'alimentation électrique par des cyberattaques avant l'invasion russe. Par leurs attaques, on va dire, informationnelles, ils ont essayé de faire croire que, par exemple, des soldats ukrainiens désertaient pour saper le moral de l'Ukraine. En fait, les attaques informationnelles, elles étaient encore même presque plus intenses depuis 2014, avec comme idée de décrédibiliser l'État ukrainien, faire croire à un État failli, faire croire à un gouvernement noyauté par les nazis. Ce genre de message. Et ce genre de message a existé avant l'invasion et continue après l'invasion. Donc c'était hyper intéressant d'aller là-bas parce qu'on avait les prémices en fait de ce qu'allait être l'invasion russe.
Du coup, là on est un petit peu en dehors du champ, on va dire technique, hein, du malware, du rat, du SOC, parce qu'il y a aussi une partie que tu couvres dans ton livre, c'est la guerre informationnelle et la manipulation d'informations et ces choses-là. Est-ce que pour toi c'est lié, c'est une partie importante de la cybersécurité ou est-ce que c'est un sujet plus moderne ?
Pour moi, c'est l'aboutissement en fait de ce champ-là. En fait, c'est que pour schématiser, avant, espionner, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt puisque rien n'était numérisé. Et puis, au fur et à mesure, ces 30-40 dernières années, à mesure que tout s'est numérisé, informatisé, c'est devenu intéressant d'espionner. Une fois qu'on a tout numérisé, un pan important de la vie sociale, politique d'un pays se passe en ligne. Donc attaquer un pays peut aussi passer par manipuler ses élections, tenter d'influencer son débat public, faire des opérations de hack and leak. Une opération de hack and leak, c'est un piratage informatique, une captation de données avec tout ce que ça peut comporter d'étapes techniques, avec ensuite une opération de dissémination de l'information récoltée ou d'une partie de l'information récoltée, avec une modification de l'information récoltée. Les deux choses s'imbriquent, et même il y a certaines actions de piratage informatique, on a l'impression que c'est 100% technique. En réalité, une part importante de certains piratages, en fait, ont pour but non pas de compromettre de l'information ou de saboter un système informatique, mais de faire passer un message ou de faire peur ou de semer le doute dans une société. Et le meilleur exemple de ça, c'est un exemple qui a touché la France, c'est l'attaque contre TV5 Monde. On a beaucoup glosé sur, c'était une attaque très sophistiquée parce que ça visait les multiplexeurs, c'est des appareils numériques complexes, qui sont pas à la portée de n'importe qui. Oui, mais non, ils avaient mis leur mot de passe sur les murs, etc. En fait, on s'en fout. Dans les faits, le GRU a interrompu l'émission d'une des principales chaînes de télé en France, ce qui a eu pour effet de précipiter devant tous les médias du pays les ministres pour dire les djihadistes, parce que c'était une attaque évidemment sous faux drapeau, les djihadistes nous attaquent, on est en 2015, on est entre janvier 2015, Charlie Hebdo, et novembre 2015, les attaques du Bataclan. Donc on est dans une psychose à juste titre au niveau national. D'un seul coup, il y a des djihadistes qui attaquent, d'un seul coup, il y a des ministres en prime time à la télé qui disent, sans aucune espèce de preuve, hein, et malgré les premiers éléments très vite qui laissent entendre qu'ils sont un peu bizarres ces djihadistes, qui disent « on est à nouveau attaqué, il y a un attentat numérique, etc. » Ça, l'effet psychologique d'avoir ces responsables politiques qui parlent, qui réactivent la peur de l'attentat djihadiste, c'est incommensurablement plus dommageable que simplement une chaîne de télé qui s'arrête. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie continuité entre l'attaque informatique pure au sens technique du terme et les opérations de manipulation dans un monde où tout est numérisé, où quasiment notre interface au monde, elle est faite de systèmes informatiques. Donc une attaque qui en compromet le secret, l'authenticité, etc., c'est forcément une attaque sur notre perception et donc une attaque quelque part de manipulation.
Est-ce que tu reviens sur tous ces aspects géopolitiques, stratégiques, justement, des attaques dans ton livre ?
Quasiment uniquement, il y a très peu de techniques. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le but du bouquin, c'était vraiment de rendre compréhensible ce champ-là et cette histoire-là au plus grand nombre. Et surtout, c'était... En fait, des bouquins là-dessus, il y en a, mais j'avais l'impression que c'était soit des bouquins très techniques, que ce soit de la technique... on va dire vraiment technologique sur les malwares, etc. Ou des choses très techniques dans tout ce qui est relations internationales, CTI, etc. Et à l'autre bout du spectre, il y avait des bouquins qui n'étaient pas trop techniques, mais qui étaient un peu fourre-tout, qui parfois n'étaient pas très rigoureux avec les faits. Et donc, du coup, moi, je voulais avoir un peu le meilleur des deux, c'est-à-dire vraiment quelque chose de très solide sur le fond, mais qui soit très accessible, qui soit un récit journalistique. Donc, j'ai essayé en tout cas de raconter les attaques vraiment au plus proche des gens, de me rapprocher au plus possible des gens qui étaient sur place au moment où il y a une attaque. Par exemple, j'ai eu accès à plein de choses, ce qui s'est passé à Saint-Gobain pendant NotPetya, ce qui m'a permis de raconter non pas l'aspect vraiment très technique de NotPetya, donc ce faux rançongiciel en juin 2017 qui avait commencé en Ukraine et qui s'était répandu dans le monde entier. Voilà, l'idée, c'était pas de raconter, oui, alors, il attaque le master boot record, et fin, du coup, tu peux pas vraiment redémarrer, machin. Le but, c'était d'expliquer concrètement ce que ça fait chez Saint-Gobain, à l'Annecy, chez la BNP, je crois, une filiale de BNP. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe, quoi, minute par minute, et ensuite, de dire, mais ok, mais alors, pourquoi Saint-Gobain, pourquoi l'Ukraine, etc. Donc de replacer ça dans un contexte géopolitique. Très clairement, le message était a priori assez limpide, c'était de dire voilà ce qu'il en coûte de faire du business avec l'Ukraine. Encore une fois, un exemple d'attaque informatique qui a une composante de message ou de manipulation. Il faut un peu penser aussi comme un service de renseignement parfois quand on fait ce travail d'explication. Il y a toujours plusieurs couches plusieurs niveaux d'explication.
Je vais me permettre une petite digression. Donc, ça fait un petit peu plus de 10 ans que tu es journaliste dans, en tout cas, dans des thématiques autour de la cyber, de la tech, de manière générale. Comment tu vois, de ton côté, avec ton œil journaliste, on va dire l'évolution dans ce domaine-là? Et la deuxième question, c'est être sur des terrains et sur un champ de bataille numérique. Comment tu fais aussi pour te protéger? Parce que potentiellement, tu peux aussi être attaqué. Je pense à des personnes comme Runa Sandvik, peut-être que tu en parleras, qui travaille notamment sur les aspects de comment les journalistes peuvent se défendre. Et je suis intéressé d'avoir ton retour sur ces deux questions.
Alors, sur l'évolution de toute la tech et de la cybersécurité, un peu large, mais en tout cas, pour la cybersécurité, moi, un truc qui me frappe énormément par rapport à la période pendant laquelle j'ai débuté, c'est que quand j'ai débuté, il y avait une phrase qu'on disait toujours, l'attribution d'une attaque informatique, c'est très très compliqué. Et du coup, journalistiquement, on avait zéro base factuelle, généralement, pour dire, cette attaque informatique, elle est venue de là, et elle a eu tel effet, et voilà pourquoi elle a été lancée. Et par qui? Et comment? Enfin, si, comment ça allait encore? Et en 10 ans, essentiellement grâce au développement de la CTI, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi tout un effort, beaucoup aux États-Unis, un peu au Royaume-Uni, un peu en Allemagne, de judiciarisation de ces questions-là. Au final, quand on prend tout ça, on a un corpus de rapports, de recherches, de traces aussi. Parce que des groupes comme APT28, ils sont là depuis maintenant 20 ans. Donc, ils ont laissé au fur et à mesure de leur activité des traces. Et on peut camoufler une attaque une fois, camoufler 20 ans d'attaque quand en plus on est un service de renseignement qui n'en a rien à cirer de se faire attraper. Donc ça, c'est vraiment un changement qui a été progressif, mais qui vraiment, en écrivant ce bouquin, je me disais, mais vraiment, c'est incroyable ce que je peux écrire en sourçant et en mettant vraiment des faits par rapport à il y a 10 ans auparavant où on disait, ah ouais, alors ça a l'air d'être russe, mais alors en fait, on n'en sait rien. Alors que là, on a des noms, on a des visages, on a des... Enfin, il y a une quantité de recherches assez impressionnante. Après, c'est le propos d'un de mes chapitres. L'industrie de la CTI, elle se développe aussi, elle produit de la connaissance, elle produit des rapports, elle produit des faits, mais c'est toujours des entreprises qui sont affiliées à un État, c'est fort, mais qui sont positionnées géographiquement, on va dire. Il y a certaines entreprises de CTI américaines qui sont littéralement des frontes pour les services de renseignement américains. Je ne vais pas donner de nom parce qu'on a dit qu'on était bienveillants, mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres entreprises. Le problème, c'est qu'il n'y en a vraiment qu'une seule, mais russe, où la CTI qu'elle produit n'est pas la même que celle qu'elle produisait il y a 2 ou 3 ans, parce que le contexte géopolitique a changé. Donc ce n'est pas une production de connaissances totalement neutre et totalement sans biais stratégique, mais ça, en tant que journaliste, on est habitué à traiter avec des sources de connaissances qui ont un intérêt, qui ont un agenda, et en croisant et en la mettant à la bonne distance, ça le fait, quoi. On arrive quand même à obtenir une vision, je pense, qui est globalement bien meilleure du « je fais les petits crochets avec mes doigts » cyberespace qu'il y a 10 ans, quoi. Et sur se protéger, moi, je suis un grand... je suis un peu passé par deux phases. Quand j'ai commencé à traiter ce sujet, j'étais vraiment... J'étais extrêmement versé dans le chiffrement... j'avais une clé GPG, etc. J'essayais de l'utiliser au quotidien. Je le fais moins, en tout cas ce genre d'outil, je l'utilise moins au quotidien pour 2 raisons. La première, c'est que mon niveau de paranoïa a un peu baissé. Et de 2, il y a des outils nouveaux qui sont venus et arrivés. Par exemple, je pense à Signal qui aujourd'hui est dans le téléphone de tous les journalistes de la planète. Je connais quasiment aucun journaliste un peu sur des sujets vaguement sensibles qui n'a pas Signal. Qui donc met cette protection cryptographique relativement évoluée vraiment à la portée de n'importe qui. Pour tout ce qui... En fait, j'adopte plutôt une approche de si c'est sensible, j'utilise moins de technologie. Par exemple, il y a des choses que je ne vais pas mettre en ligne, il y a des choses que je vais garder en papier, il y a des choses que je vais numériser, mais avec des précautions spécifiques qui rendent mon travail un peu compliqué, mais qui sont nécessaires. Donc c'est vraiment très, très variable, et surtout c'est adapté aussi à l'exercice du journalisme, parce que quand la protection empêche de faire son travail, c'est qu'il y a un problème. Quoi. Donc, voilà.
Tiens, je rappelle d'ailleurs que tu as écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Anonymat sur Internet ».
C'est vrai. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu le même objectif. C'était vraiment de dire au plus grand nombre, voilà les menaces qui pèsent sur votre vie privée quand vous utilisez Internet et les réseaux sociaux et les objets connectés. Quoi. Et voilà ce qui se passe. Voilà quel est l'écosystème dans lequel vous évoluez et voilà comment vous en prémunir. J'étais très optimiste à l'époque, je le suis beaucoup moins aujourd'hui sur la capacité, la volonté, alors pas tellement la volonté, mais la capacité des gens à se soustraire à la matrice. Donc,
l'attribution est plus facile, mais la protection est plus difficile.
Oui, mais ça c'est sûr, ça c'est une certitude. Après, la protection, ça dépend aussi. Souvent, j'ai l'impression qu'on a tendance à se dire il faut tout protéger. Alors qu'en fait, en réalité, il faut essayer de... En tout cas, c'est le raisonnement que j'essaie d'adopter, c'est de me dire, OK, ça, est-ce que c'est sensible? Et c'est sensible vis-à-vis de qui? Si c'est sensible vis-à-vis de la NSA, je ne vais pas du tout me protéger pareil que si c'est sensible vis-à-vis de, je sais pas, une grande entreprise sur laquelle j'enquête ou si c'est sensible vis-à-vis, j'en sais rien moi, d'un fabricant de logiciels espions par exemple. Fabricant de logiciels espions, comme il est spécialisé dans les iPhones, je vais peut-être rien faire qui soit accessible depuis mon iPhone, mais je vais quand même peut-être utiliser mon ordinateur de manière un peu habituelle. Quoi. Si c'est la NSA, là, papier stylo. Quoi.
Est-ce qu'on peut donner le titre, l'éditeur de ton livre, puisque je crois qu'on ne l'a pas mentionné en début d'épisode? Et comment est-ce qu'on peut se le procurer? Il me semble qu'il y a une édition qui est épuisée déjà, non?
Non. Attends, tu parles du premier ou du deuxième livre? Parce que le premier livre, oui, il doit être épuisé depuis le temps, mais le second, il s'appelle Espionner, mentir, détruire. C'est aux éditions Grasset et il se trouve... alors, dans toutes les librairies, non, mais en tout cas, toutes les librairies peuvent le commander si elles ne l'ont pas déjà en stock.
Ok, Martin, est-ce que tu souhaiterais apporter le mot de la fin?
J'espère que ça vous aura donné envie de lire le bouquin et surtout si vous avez des précisions ou des erreurs ou des compléments à apporter,
oui,
je serais ravi.
Oui, et puis il y a des Secure Drop maintenant à droite à gauche, il y a même des Secure Drop sur Tor. Donc ceux qui voudraient anonymement et de manière très sécurisée et sans risque apporter des compléments, maintenant c'est de plus en plus possible, même sous
fait.
Forme numérique.
Mais moi, à la limite, je prendrais le contre-pied de ça et je dirais, et d'ailleurs, je crois que je l'ai noté quelque part sur le site que j'ai fait pour mon livre, que la manière la plus sécurisée de me contacter, c'est encore de m'envoyer un courrier postal qui sera lu, qui arrive sur mon bureau, qui est quasiment impossible à intercepter et surtout, il est très anonyme, à l'inverse de pas mal de solutions d'échange numérique.
Bon, eh bien Martin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.